Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la technique, Ludovic Auger. Deuxième jour de notre série consacrée à l'énergie du futur, au carrefour de l'écologie et de l'économie. Après avoir parlé hier du grand défi de la rénovation thermique, nous ouvrons aujourd'hui le débat sur une énergie aussi convoitée que contestée. Depuis plusieurs décennies, la consommation de gaz naturel ne cesse d'augmenter. Pour beaucoup, cette énergie fossile, moins émettrice de CO2 que le charbon ou le pétrole, est la solution à court terme pour réduire les émissions de dioxyde de carbone. Une stratégie contre laquelle s'insurgent les associations écologistes. Vous écoutez France Culture et vous avez raison. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Quelle place pour le gaz naturel dans la transition énergétique? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui en compagnie d'Anna Créti, professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine et directrice de la chaire économie du gaz naturel. À 14h50, Xavier Martinet nous rejoindra autour de la table pour nous donner des nouvelles de l'écho. Bonjour Anna Créti.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le gaz a ceci de fascinant qu'il donne parfois naissance à des feux follets célébrés par Jules Verne dans son roman « Famille sans nom », extrait.
Ce feu fantasque, insaisissable, qui, dans l'ombre, voltige et luit, et qui même pendant la nuit, ni sur la mer, ni sur le sable, ne laisse de traces après lui. Ce feu toujours prêt à s'éteindre, tour à tour blanc, vert ou violet. Pour reconnaître ce qu'il est, il faudrait le pouvoir atteindre. Atteignez donc un feu follet. On dit que c'est chose certaine. Un peu d'hydrogène du sol, j'aime le croire qu'en son vol, il vient d'une étoile lointaine, de Vega, de la Lyre ou d'Algol.
Un poème extrait du roman « Famille sans nom » de Jules Verne, lui ici par Alexandre Manzanares. Anna Créti, ce que nous rappelle ce poème, c'est avant tout l'origine naturelle du gaz.
Oui, donc disons que ces contextes poétiques font appel à la façon dont on extrait du gaz. Donc le gaz est une hydrocarbure, donc une ressource fossile liée à la transformation géologique du sol. Et donc ceci permet un processus d'extraction et parfois des fuites aussi, ce qui engendre ces feux spontanés, mais qui sont complètement contrôlés aujourd'hui par la technologie elle-même, donc d'extraction et après d'usage du gaz.
Donc une origine naturelle, mais comme vous l'avez dit, ça ne signifie pas que le gaz naturel soit écologique, c'est un combustible fossile non renouvelable.
Tout à fait. En fait, l'extraction de gaz est fortement liée à celle du pétrole. Donc, d'ailleurs, en général, les puits de pétrole sont les mêmes qui donnent après suite à l'extraction du gaz. Donc, il s'agit, disons, à peu près de la même ressource sous une forme différente. Il reste donc quelque chose qui est distribué de façon sur les territoires mondiaux très inégal parce que cela dépend justement de l'âge géologique du sol où elle est extraite, mais il a des propriétés effectivement dans la combustion qui dépendent du fait qu'il est fossile et donc d'émissions de CO2.
Le gaz est aujourd'hui la troisième source d'énergie consommée dans le monde après le pétrole et le charbon et sa part dans le mix énergétique mondial ne cesse de croître aujourd'hui à Anna Créti.
Oui, il faut voir où, parce que très souvent, pour les énergies fossiles, on a ces énergies qui sont produites dans certains endroits et utilisées dans d'autres. Globalement, la demande de gaz augmente parce qu'il y a un centre mondial où toutes les énergies sont utilisées, notamment donc la partie asiatique et la Chine en première, même si avec quelques inflexions aujourd'hui. Et donc, ceci drive en fait la demande mondiale de gaz. Notre deuxième raison pour laquelle il y a eu aussi un accroissement de la demande, c'est que, en fait, les gaz a substitué, même si en partie encore insuffisante, le charbon. Donc pour ceci, il a été appelé donc les par excellence l'énergie de transition, parce qu'elle permettait effectivement, avec des efforts relativement faibles, de passer d'une énergie plus polluante comme le charbon à celle toujours fossile, à moins polluante comme vous l'avez rappelé, le gaz.
Au-delà du fait qu'effectivement le gaz naturel est moins émetteur de CO2 que le charbon ou le pétrole, quels sont les avantages de ce gaz et notamment le fait qu'il est accessible dans de nombreuses régions du monde et qu'il est relativement peu cher?
Le fait qu'il y ait une demande élevée explique en partie, mais on fera un focus sans doute sur les questions de marché, et sa disponibilité explique le fait que ça soit une ressource relativement abondante, avec un prix donc effectivement plus intéressant que d'autres énergies, toutefois plus cher que le charbon. La question de la relation avec les prix du pétrole est aussi quelque chose qu'on aura l'occasion de revoir ensuite. En termes de disponibilité mondiale, il y a des pays qui effectivement représentent une grande partie des ressources fossiles et entre autres de celles gazières et qui ont organisé dans les temps une chaîne d'exportation de gaz, parce que voilà, le gaz il est consommé surtout dans des régions où il n'est pas suffisamment produit, et donc ceci le rend attractif, sachant qu'il peut être transporté aussi de différentes façons. On a un transport via des gazoducs qui sont des infrastructures assez impressionnantes qui parcourent des kilomètres et des kilomètres, donc ça c'est la voie terrestre, et notamment on a plein de gazoducs qui acheminent le gaz de la Russie vers l'Europe, une petite partie aussi de la Russie vers l'Asie, mais il peut être aussi liquéfié et donc transporté par bateau, ce qui amplifie en fait les possibilités de commerce international de gaz.
Cette question du transport est fondamentale, Anna Créti. Ce sont les difficultés à transporter le gaz qui expliquent que pendant longtemps, cette énergie a été mise de côté, au moins avant, mettons, 1945, qui est le point de départ vraiment d'utilisation du gaz naturel.
Disons que c'est en général un secteur qui est très intensif en capital. Les processus à la fois d'extraction et de transport est donc coûteux. Et il n'a pas été utilisé pour les commerces internationaux tant que la demande ne s'était pas suffisamment développée. Et c'est avec des modes de financement assez particuliers, donc des contrats de long terme, de très très long terme. On a des contrats gaziers qui vont maintenant disparaître, mais qui sont à l'origine en fait de l'essor du secteur du gaz naturel, des contrats qui s'écoulent sur 80 voire 100 ans et qui ont permis donc la construction de ces infrastructures et donc voilà cette dimension internationale du gaz. Dans un premier temps, ceci est resté concentré sur deux grands centres de consommation, l'Europe d'une part et les États-Unis de l'autre. Aujourd'hui, ces deux pôles se font concurrence.
Et donc l'utilisation à grande échelle du gaz naturel remonte seulement à la seconde moitié du XXe siècle.
Là où la demande d'énergie a augmenté, et c'est là donc à justifier, disons, l'usage du gaz pour d'abord des questions donc qui étaient liées au processus d'industrialisation naissante et ensuite aussi pour des fonctions thermiques.
Et alors comment s'approvisionner la France dans les années 50, 60, 70? Je vous propose d'écouter un extrait d'une interview d'un membre de la direction de Gaz de France. C'était le 28 janvier 1973 dans l'émission Interactualité.
Tout cela a commencé en 57 avec le gaz de Lacq qui progressivement a remplacé l'ancien gaz, le traditionnel gaz de ville que l'on fabriquait en usine à partir du charbon ou du pétrole. Et comme ce gaz de Lacq a connu un succès assez considérable et que les réserves étaient évidemment non inépuisables, il a fallu aller chercher du gaz naturel ailleurs et c'est ce que nous nous sommes efforcés de trouver avec les approvisionnements qui existent à l'étranger. Nous avons donc du gaz de Lacq, du gaz d'Aquitaine, nous avons du gaz d'Algérie qui arrive par navire au Havre et à Fos-sur-Mer. Nous avons du gaz de Groningue, des Pays-Bas, et nous en sommes là actuellement, en 72. Mais comme la consommation de gaz actuellement en France double tous les 5 ans, il a fallu encore aller plus loin chercher du gaz naturel. Et ce plus loin, c'est d'une part la mer du Nord, norvégienne, et d'autre part l'URSS.
Anna Critique, qu'est-ce que cet extrait nous dit de la place que prend le gaz naturel en France et en Europe à partir des années 50 ?
Oui, effectivement, cette vision historique est très intéressante. Elle montre comment progressivement on a à la fois amplifié les usages du gaz et donc la nécessité d'aller les chercher plus loin. Les gaz, historiquement, mais c'est toujours le cas, intervient, comme je disais, dans des processus chimiques très importants, dans la production aussi du verre, donc des processus de production assez lourd, industriel, et en partie aussi pour les chauffages. Donc la demande essentiellement vient donc de l'industrie, du secteur résidentiel, et une toute petite partie du secteur tertiaire, probablement par rapport à la dynamique qui était rappelée dans cet extrait. Aujourd'hui, on n'a pas une croissance aussi importante de la demande de gaz qui s'est relativement stabilisée dans les 10 dernières années. Aujourd'hui, la place, disons, en France du gaz dans les mix d'énergie finale consommée est à peu près de 20%. Et cette partie est voilà, relativement stable, sachant que la moyenne européenne elle est un peu plus élevée, autour de 23% dans les mix toujours d'énergie finale. Avec des disparités très fortes, et ces disparités dépendent d'un autre facteur qui était rappelé dans cet extrait, la différence entre les pays qui importent du gaz, qui ont essayé quand même de limiter aussi ces importations, et les pays qui le produisent également.
Et la différence avec la situation d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur la production justement de gaz naturel en France, aux Pays-Bas, comme c'est dit dans cet extrait, aujourd'hui, 50 ans plus tard ?
Beaucoup de choses ont changé. Alors d'abord, il s'agit d'une ressource fossile, donc on a une loi implacable, celle de l'extraction. Plus on extrait, moins les réserves sont importantes, même si à niveau mondial, il ne faut pas s'inquiéter, on a du gaz pour plus de 300 ans, seulement pour les réserves connues. Mais effectivement, on a un mécanisme de déplétion naturelle après un pic de production que en France on a passé justement dans les années juste après les années 70. Donc on est condamné, si on utilise du gaz fossile, à l'importer. Qu'est-ce qui a changé ? Il y a quand même un élément très fort qui a changé par rapport à la situation du début des années 70, c'est l'usage du gaz pour la production d'électricité. Ceci est une technologie nouvelle qui a été introduite aux États-Unis dans les années 80 et plus tard en Europe, plutôt vers les débuts des années 90, avec l'introduction du cycle combiné à gaz, donc des turbines qui brûlent du gaz pour produire l'électricité. Et ceci, effectivement, a créé une demande relativement indépendante, donc celle des producteurs d'électricité, pour donc des usages très différents.
On va revenir sur ce point très intéressant, Anna Critique, mais d'abord, il faut peut-être expliquer que le prix du gaz a été longtemps indexé sur celui du pétrole. Dans quel contexte le gaz naturel est-il devenu un marché indépendant en Europe ? C'était à la fin des années 90, je crois.
Oui, alors les gaz, il est toujours les petits frères de quelqu'un. je l'ai dit toujours. Jusqu'à ces 4 ou 5 dernières années. Tout d'abord, les faits que, comme on l'évoquait au début, l'extraction du gaz est très liée à celle du pétrole, a créé un lien économique très naturel entre les prix du gaz et les prix du pétrole. Donc, dans les mondes anciens, en fait, de l'énergie, il y avait un lien très fort, même contractuel, donc l'indexation du prix du gaz à celui du pétrole. Donc, les gaz suivaient à 6 mois d'écart, selon les contrats entre les différentes parties, des ajustements qui pouvaient aller sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, mais suivaient en fait la dynamique du prix du pétrole.
Ça s'est décorrélé.
C'était de toute façon corrélé. Et d'ailleurs, il n'y avait pas une demande indépendante pour les gaz. Les gaz étaient toujours les substituts de quelque chose. Donc d'où aussi l'essence économique de lier ces prix en plus du processus d'extraction. Mais cette logique a été interrompue ou de toute façon mise un peu à l'épreuve des forces du marché quand toujours aux États-Unis à la fin des années début des années 80 on va dire on a impulsé la création de marchés de gaz. Donc ceci a fait suite à une énorme découverte de gisements de gaz. Toute la partie basse du Texas, toujours là. Et qui a créé en fait aujourd'hui les marchés les plus importants de gaz au monde. Donc c'est les Henry Hub. Et qui a donc eu la nécessité quelque part de revendiquer un prix du gaz pour les prix du gaz. Avec donc ces déterminantes de demande et d'offres indépendantes. La création donc de ces forces de demande a pris après un peu de temps et c'est né qu'avec la généralisation de ce qu'on appelle la gas-to-gas competition, donc l'usage du gaz pour l'usage du gaz, qu'on a vu émerger un véritable prix du gaz.
Cependant, l'ouverture du marché a eu peu d'effet. C'est en tout cas ce qu'expliquait en 2014 Fabien Chaunet, qui était alors président de l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie.
Aujourd'hui, nous, on estime que dans la situation actuelle d'ouverture du marché, où une très faible proportion de consommateurs bénéficie de ce pouvoir d'achat complémentaire, il est nécessaire de faire nous-mêmes la promotion de nos offres et de pas laisser GDF Suez de faire des promotions d'offres qui sont pas compétitives. On va informer les consommateurs, en les appelant par exemple, pour leur dire effectivement qu'il existe des offres compétitives, qu'il n'y a pas de risque d'approvisionnement pour eux, qu'il n'y a pas de contraintes techniques, qu'il n'y a pas de changement de compteur. Ils sont très mal informés. Il faut bien comprendre qu'un client sur deux ne sait même pas que le marché est ouvert. La plupart pensent que c'est risqué de quitter les opérateurs historiques. Ils pensent qu'il va y avoir des changements de compteur, des coupures. Tout ça est complètement faux. 7 ans après l'ouverture du marché, et alors même qu'on est en situation de crise économique, que la précarité énergétique, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas payer leur facture de chauffage, augmente, vous n'avez même pas 5% des consommateurs qui vont aller faire des économies de 100 à 200 euros par an.
Que vous inspirent ces propos, Anna Créti ?
C'est fantastique. J'aime bien, en fait, cette façon un peu, enfin, de revendiquer la connaissance de ces marchés. Et ça n'a pas beaucoup changé, peut-être, depuis, non, un peu quand même. Alors, l'ouverture en Europe, maintenant, on change de continent, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, le marché du gaz naturel a été ouvert à la concurrence en 98. 2 ans plus tard, celui de l'électricité. Donc, on a trouvé un deuxième copain, l'électricité. Et depuis, à partir de 2003, les marchés du gaz et de l'électricité sont gouvernés dans les mêmes cadres des directives européennes qui après sont donc mises en œuvre dans les différents pays, dans les législations nationales. Alors, la situation à laquelle on fait référence est une situation un peu particulière qui est celle française, où justement dans cette course électricité-gaz, c'est sans doute historiquement l'électricité qui domine. D'où cette méconnaissance du marché du gaz, des opportunités et des usages aussi qui sont ouverts par les gaz, et cette difficulté en fait de faire rentrer les gaz notamment chez les consommateurs résidents. Ensuite, la question tarifaire est aujourd'hui, je dirais, par rapport à la situation dont on a entendu parler tout à l'heure, je pense qu'elle a évolué.
La fin des tarifs réglementés est prévue pour 2023 en vertu de la loi énergie-climat de novembre 2019.
Mais ça, c'est la même chose que pour les marchés de l'électricité. Donc, je pense que ce n'est pas spécifique au gaz. Ça fait partie d'un coup d'accélérateur, d'ailleurs nécessaire pour l'ouverture au marché, à la concurrence en France, par rapport justement à ce qui s'est fait dans d'autres pays européens. Et le fait de dire les gaz n'est pas connu, les gens ont peur, ça évoque cette sensation de ne pas maîtriser en fait les gaz, la peur de l'explosion ou la peur en fait de l'équipement nécessaire à utiliser du gaz. Bon, ça, je pense effectivement qu'on est passé outre.
Si les demandes, la demande de gaz augmente depuis quelques décennies en Europe, c'est grâce aux politiques mises en place afin de favoriser le gaz naturel. Il y a vraiment eu un choix du gaz naturel à court terme, Anna Créti.
Il n'y a pas eu un choix délibéré pour les gaz. En fait, c'est les choix qu'on a fait, c'est la décarbonation du secteur de l'énergie. donc à cette demande qui est très forte et qui devient de plus en plus forte et qu'il faut toujours veiller à ce qu'elle reste forte, on a répondu de différentes façons. Une première façon, c'est d'utiliser justement les gaz en remplacement du charbon, première tendance. Quelque part aussi au tout début disons de cette de la directive 2008-2009 qui a imposé les objectifs de décarbonation en toute petite partie, donc je disais en substitution aussi du pétrole, mais aussi avec les gaz, les renouvelables. Donc les régulateurs, qu'il s'agisse de la Commission européenne ou du régulateur national, n'a pas pris des actions spécifiques pour augmenter la demande de gaz, mais c'est la réponse en fait de l'industrie de l'énergie face à l'impératif de la décarbonation.
Récemment, au mois de février, il y a eu un débat à Bruxelles autour de la nécessité de financer ou non des infrastructures gazières. Et effectivement, cela pose question, puisque si jamais l'Europe veut atteindre la neutralité carbone en 2050, comme le vise le pacte vert de la Commission européenne, elle va devoir drastiquement réduire sa consommation de gaz, Anna Kriti.
Et va devoir réduire la consommation de gaz fossile. Donc, effectivement, c'est au gaz, entre guillemets, polluant qu'on pense. Mais c'est vrai qu'on a quand même une équation qui est un peu difficile à résoudre. D'une part, l'objectif de la décarbonation. D'autre part, une demande de gaz qui, même s'il n'est pas en train d'exploser, reste importante. Et comme on l'a dit tout à l'heure, des réserves européennes qui diminuent. Donc quelque part, il faut combler l'écart entre la demande, les besoins donc qu'on a à niveau du consommateur final, mais aussi dans l'industrie, et la disponibilité de la ressource. Tout cela en faisant quand même attention aux émissions de CO2.
Effectivement, une centrale au gaz émet deux fois moins de CO2, qu'une centrale au charbon. On estime, Anna Kriti, que véritablement cette politique qui consiste alors peut-être à favoriser le gaz naturel au moins comme une énergie de transition, ça a permis de diminuer véritablement la consommation de pétrole, de charbon en Europe.
Je pense qu'effectivement, l'usage du gaz, notamment pour la production de l'électricité, a permis une baisse certaine des émissions dans ces secteurs. Et aussi, ça a permis, grâce au fait que les investissements, justement, dans les centrales dont on parlait tout à l'heure, est relativement agile. Si on le compare à d'autres formes, disons, d'investissement, de centrales, par exemple, les centrales nucléaires. Donc, il y a eu un avantage dans ces processus qui a commencé depuis 15 ans. Et je pense que, voilà, cet avantage va rester. Maintenant, il y a aussi d'autres caractéristiques et d'autres avantages du gaz qui, notamment en complémentarité avec les énergies renouvelables, font que on a aussi intérêt à garder en fait cette ressource, même si on peut après faire des projections sur l'importance des gaz, disons propres, dont on va parler tout à l'heure. Mais après, c'est une question à nouveau d'équation, de besoin et de disponibilité de la ressource.
On parlait du prix du gaz naturel, ce qui a eu également une incidence sur le prix, c'est l'explosion de la production de gaz de schiste en Amérique du Nord, car il faut le dire, les exportations de gaz naturel liquide américain vers l'Europe ont augmenté de 272% entre avril 2016 et juillet 2018. Ce sont les chiffres de la Commission européenne.
Oui, donc comme souvent, les grandes disruptions dans les marchés des hydrocarbures dépendent d'avancées technologiques. La technologie donc qui est utilisée est une technologie d'extraction un peu particulière. Donc les gaz de schiste qui en fait sont extraits avec en utilisant des produits chimiques et de l'eau.
La fracturation hydraulique.
La fracturation hydraulique. Donc c'est un procédé qui est rentable et relativement peu coûteux.
Mais extrêmement polluant.
Mais extrêmement polluant et destructeur aussi de la biodiversité. Mais qui a été, en fait, plusieurs entreprises, micro-entreprises américaines se sont emparées de cette technologie et ont rendu possible cette révolution. Sachant que les États-Unis en eux-mêmes ont quelque part favoriser l'exploitation des gaz de schiste, parce que cela répondait dans un premier temps à leurs besoins directs de demande en fait de gaz interne, parce que les États-Unis dépendaient de la même façon où l'Europe dépend de la Russie ou de la Norvège, les États-Unis dépendaient du Canada. Donc ils avaient effectivement ces problèmes d'importation du gaz, et dans les soucis donc d'indépendance énergétique ou de sécurité énergétique, ils ont développé cette technologie. Bonne surprise, ils ont trouvé plus de gaz de ce qui était nécessaire à leur consommation locale, on va dire nationale, et ceci donc les a amenés à intervenir comme les Américains savent le faire, donc sur les marchés mondiaux, en exportant l'excédent et donc en envahissant effectivement les marchés.
Et on a donc des prix assez bas en Europe concernant le gaz naturel, mais selon vous, ce gaz naturel, il n'est pas encore assez compétitif sur le vieux continent pour remplacer tout à fait le charbon. Et là, il y aurait un rôle des autorités en ce sens ?
Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. ce sont des forces de marché. Donc, si il y a une demande de gaz et elle va être satisfaite, donc d'abord par les marchés qui existent en Europe. Donc, on n'a pas nécessairement besoin en fait d'aller chercher le gaz aux États-Unis. Les gaz des États-Unis passent par l'Europe pour approvisionner l'Asie. Donc c'est vrai, il faut faire la différence entre ce qui a transité par l'Europe et ces gaz américains qui a été consommé en Europe. Pour l'instant, on n'est pas encore là. On a quand même des grosses réserves en mer du Nord, les réserves de la Norvège. Tous les gaz qui est contractualisé avec la Russie, ça fait entre guillemets assez pour l'instant en Europe. Après, est-ce qu'il est compétitif ou pas? Il faut évaluer la compétitivité globale compte tenu des coûts de transport. Parce que, justement, c'est vrai qu'on peut liquéfier, mettre sur les bateaux des shippers, qui sont ces agents mythiques qui traversent les océans. Il faut après les régazifier, il faut l'injecter. Donc, il faut voir, en fait, s'il est vraiment compétitif et à quel moment le gaz américain va être parmi les autres sources d'approvisionnement, quelque chose qui est intéressant pour l'Europe. Donc je pense que si on a un marché qui est suffisamment ouvert, on n'a pas besoin en fait d'une intervention externe pour flécher une source de gaz plutôt qu'une autre.
La place encore importante du gaz naturel dans le mix énergétique européen est dénoncée par de nombreuses associations écologiques. On en parle dans un instant, juste après l'éloge du butagaz par Guy Stella.
Le plus petit village, chacun veut avoir chez lui du confort, des avantages, comme on en trouve à Paris. Butagaz dans les cuisines, c'est la joie dans les foyers, c'est la meilleure des combines pour préparer un dîner. Butagaz, butagaz, pratique économique, pour les ragoûts et le pot-au-feu, ça se fait tout seul, c'est merveilleux. En deux temps, trois mouvements, repas est fait immédiatement. Et comme le temps c'est de l'argent, le butagaz est épatant. Et comme le temps c'est de l'argent, le butagaz est épatant. C'est du soleil en bouteille, nous dirait ce bon Marius. C'est la huitième merveille, chez nous y en a tant des plus. Bientôt dans toutes les campagnes, butagaz s'installera. Dans les plaines et les montagnes, tout le monde chantera. Butagaz, butagaz, pratique économique, pour les ragoûts et le pot-au-feu, ça se fait tout seul, c'est merveilleux. En deux temps, trois mouvements, le repas est fait immédiatement. Et comme le temps c'est de l'argent, le butagaz est épatant. Et comme le temps c'est de l'argent, le butagaz est épatant.
Le but à gaz, c'était patent. C'était la chanson du but à gaz de Guy Stella sur France Culture. D'entendez-vous l'écho suite de notre discussion sur une énergie controversée, le gaz naturel. Nous sommes toujours en compagnie d'Anna Créti, professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine et directrice de la chaire économie du gaz naturel. Alors, on l'a dit, le gaz est souvent considéré comme un moindre mal par rapport à d'autres énergies fossiles comme le pétrole ou le charbon. Pourtant, il pose lui aussi un certain nombre de problèmes sur le plan écologique d'abord, car c'est un fort émetteur de méthane. Je vous propose d'écouter les explications scientifiques de Nabil Sultan. Il est chercheur en géotechnique et responsable de l'unité géosciences marines de l'IFREMER.
Il faut savoir que les hydrates de gaz, les hydrates de méthane, quand ils se décomposent, ils génèrent des quantités énormes de gaz et de méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre 25 fois supérieur au CO2, dioxyde de carbone. L'augmentation dans des périodes chaudes, l'augmentation de température peut générer la décomposition de ces hydrates de gaz. Donc on génère ce méthane dans l'eau de l'océan, qui peut modifier l'acidification des océans, et ce gaz-là peut aussi arriver dans l'atmosphère, donc amplifier aussi ce réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en décomposant les hydrates de gaz pour récupérer le méthane ou le gaz, nous ne maîtrisons pas du tout le comportement du réservoir, le sédiment qui est autour de ces hydrates de gaz. On risque, pendant la décomposition de ces hydrates de gaz, de générer des fractures dans le sédiment et dégazer le méthane dans la colonne d'eau et dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, j'ai tendance à dire que c'est plutôt un danger pour notre futur.
Le danger que représente le gaz naturel se situe plutôt du côté du méthane que du CO2, Anna Créti ?
Oui, donc disons que ces phénomènes, hein, c'est vrai, ils existent et on n'a pas une façon... comment dire, sûr à 100% et de dire bon, on va l'éviter. Après, quand on parle d'énergie et d'usage d'énergie, il faut mettre toujours les questions en perspective. Il n'y a pas une énergie ou une source qui est sûre à 100%. Tout est une question relative de maîtrise des risques. Si on devait comparer les risques engendrés par ces phénomènes donc de construction spontanée de méthane par rapport au risque industriel d'un accident nucléaire, je pense qu'on est quand même sur des pourcentages relativement comparables.
Il y a quand même une prise de conscience du risque que représente le méthane. Les producteurs essayent de diminuer leurs émissions.
De toute façon, ils y sont obligés parce que il s'agit donc de réglementations très strictes qui les contraignent à les réduire un maximum. Donc, il y a derrière beaucoup de recherches en termes technologiques pour maîtriser ces risques. Je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse de phénomènes qui sont négligés et qui représentent donc un véritable danger. Du point de vue naturel, je pense que c'est le prisme en fait de cette intervention. C'est un procédé connu et donc parce qu'il est connu, cela permet aussi une certaine maîtrise.
Risque sur l'environnement et puis sur la santé humaine. Les camions roulant au GNL, rejettent de l'oxyde d'azote qui est un gaz toxique, Anna Créti.
Oui, encore une fois. Donc là, on fait appel à un autre usage, qui est celui donc l'usage du gaz dans la mobilité. Il y a une petite partie ouais, de rejet d'azote qui est lui aussi réglementé. On n'est pas dans une dimension où il n'y a pas de contrôle. Mais ce n'est pas les seuls polluants. Je veux dire, les moteurs diesel ou les moteurs à essence rejettent également du monoxyde de carbone, particules qui sont également nocives à la santé. Mais voilà, les normes ERO et toute la réglementation européenne sont là pour les limiter.
Des normes du côté de l'Europe, mais effectivement ce qui peut inquiéter, c'est ce gaz de schiste importé, parce que, comme on commençait à le dire tout à l'heure, Anna Créti, le gaz de schiste est responsable de graves dégâts environnementaux aux États-Unis et au Canada, notamment parce que la technique de la fracturation hydraulique entraîne un épuisement des ressources en eau, mais il y a aussi bien d'autres dégâts provoqués par cette technique.
Oui, c'est la raison pour laquelle la Commission européenne a préféré ne pas statuer sur la question. C'est-à-dire qu'il y a, en 2012 en fait, les débats étaient très forts sur la possibilité, donc face justement à la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de producteurs qui sont étrangers, de mettre en œuvre ces mêmes procédés en Europe pour alléger cette contrainte. Mais en même temps, il y a les préoccupations écologiques qui sont en Europe voilà, très très fortes. Donc pour une fois, l'Europe ne s'est pas exprimée, elle a laissé en fait chaque pays prendre des décisions. Aujourd'hui, la plupart des pays, pratiquement presque tous les pays européens, ont décidé une sorte de moratoire implicite sur les gaz de schiste, excepté la Pologne, qui est un pays effectivement très riche en hydrocarbures. C'est le réservoir avec l'Allemagne du charbon en Europe. Et donc, elle a entamé en fait des premières explorations et l'ouverture des premières licences qui sont les tout premiers pas pour une éventuelle exploitation des gaz de schiste.
Mais moratoire sur l'exploitation, pas sur l'importation de gaz de schiste.
L'importation, alors, molécule de gaz, quand elle est voilà, liquéfiée, gazifiée, elle n'a pas un label particulier. C'est-à-dire que, certes, elle va être extraite avec ces phénomènes un peu particuliers. Donc, comme on disait, il est dangereux soit pour les volumes d'onde qui est nécessaire, soit pour les procédés chimiques. Et donc, les procédés chimiques nécessaires vont polluer les nappes phréatiques. Donc, il y a sur les cycles de l'eau notamment un très gros problème. Mais ça va être un problème, je veux dire, local. C'est-à-dire, c'est là où il est extrait. Une fois qu'il est exporté, oui, on peut dire qu'on cautionne indirectement cette façon de l'exploiter, mais la molécule de gaz en soi n'exporte pas, ne traîne pas avec elle ces problèmes.
Le gaz de schiste a en tout cas permis aux États-Unis de s'affranchir de leur dépendance énergétique envers le Moyen-Orient. Je voudrais vous faire entendre ce que dit Tommy Taylor. Il est patron d'une société d'exploitation de gaz de schiste. Justement, il était interviewé en 2017.
The fact that we are less dependent on foreign oil.
Être moins dépendant des importations de pétrole est idéal pour les États-Unis. Nous importions 60% du pétrole, peut-être plus. Maintenant, nous en importons moins de la moitié. Nous pouvons aussi davantage réduire ces importations. Je ne sais pas si les États-Unis seront énergétiquement indépendants, mais c'est certainement possible pour l'Amérique du Nord. Avec le Canada et le Mexique, nous pouvons produire toute l'énergie nécessaire. L'Arabie Saoudite, ils ont du pétrole et c'est la base de leur économie. Aux États-Unis, nous avons plusieurs économies qui font marcher le pays. Nous nous sommes diversifiés. C'est une bonne chose. Aussi pour votre pays. Maintenant, il y a deux sources de gaz. S'il n'y en a qu'une, vous êtes à la merci du fournisseur. Il n'a plus le monopole. Maintenant, vous n'êtes plus totalement dépendant de Poutine. Si vous importez du gaz des États-Unis, il essaiera de négocier. Je ne vais pas couper le gaz comme je l'ai fait auparavant, parce que je sais que vous pouvez l'importer des États-Unis.
Anna Créti, ce que l'on comprend ici, c'est que le gaz de schiste se situe à la croisée d'enjeux économiques et géopolitiques particulièrement forts.
Oui, comme souvent, en fait, dans le monde de l'énergie, on a un reflet des tensions ou des équilibres politiques, et toujours déterminé par cette différence entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Dans ces discours, il y a quand même une petite, je dirais, confusion entre les logiques du pétrole et les logiques du gaz. Les taux de dépendance énergétique aux États-Unis est similaire, comme on disait tout à l'heure, à celui européen avant la révolution du gaz de schiste. 60%, c'est à peu près la même chose en Europe aujourd'hui encore. Et par contre, on fait appel, on parle de pays qui sont plutôt sur le marché du pétrole que sur le marché du gaz. Donc il faut voir les différences à niveau international. L'Arabie Saoudite, elle exporte essentiellement du pétrole et c'est le premier pays autour duquel se concrétisent tous les équilibres un peu particuliers de l'OPEP. il n'y a pas une telle organisation chez les producteurs de gaz.
Et c'est un problème, justement, le fait qu'il n'y ait pas un équivalent de l'OPEP pour le gaz?
Pour moi, c'est plutôt un avantage. C'est-à-dire que parmi les différents pays producteurs de gaz, on a une forme, bon, même si elle est relative, de concurrence. La technologie sont assez homogènes, donc il y a aussi moins de différences par rapport, si on élimine hein, la question des gaz de schiste, moins de différences dans les processus d'extraction dans les pays du Moyen-Orient. Après, il y a un pays délicat, l'Iran, qui possède énormément les réserves de gaz de schiste sont un peu particulières. On n'a pas une certitude absolue tant qu'on n'a pas fait la fracturation hydraulique. Mais ces pays ne les exploitent pas, notamment pour des questions de géopolitique et de stabilité politique en ces moments. Mais ils pourraient être, par exemple, un champion de la production de gaz de schiste au Moyen-Orient et faire concurrence aux producteurs de gaz fossiles traditionnels tels que la Russie et la Norvège.
Le fait que, vous le disiez, le gaz naturel représente encore une part importante du mix énergétique européen, c'est aussi un problème vis-à-vis de la Russie, puisque l'Europe est encore extrêmement dépendante du gaz russe. Est-ce que sur ce point, ça ne serait pas aussi une raison, finalement, de diminuer la production la consommation de gaz naturel en Europe?
Alors, le problème de la sécurité énergétique est un véritable pilier de la stratégie européenne. On a donc même des réglementations dédiées, avec des directives dédiées à la sécurité d'approvisionnement. C'est avec la soutenabilité et la question donc de garder des prix qui sont raisonnables, c'est vraiment très important chez les décideurs européens. Donc, pour faire face à ces problèmes de sécurité d'approvisionnement, il y a plusieurs stratégies qui sont mises en place. La diversification des pays importateurs est la principale. On a une dépendance, donc on parle très souvent de la Russie parce que c'est un pays un peu particulier. Mais si on regarde les pays chez qui on s'approvisionne de gaz, c'est la Norvège qui est le premier fournisseur de gaz naturel pour l'Europe, suivi par la Russie, suivi par l'Algérie. Donc c'est vrai qu'on a et après il y a tous les autres producteurs du Moyen-Orient. On a déjà fait, disons, un pas en avant sur la diversification donc du bouquet des pays duquel on reste dépendant quand même, mais avec une part qui est plus équilibrée aujourd'hui de ce qu'elle l'était il y a 10 ans. Certes, il faut que ces différentes sources soient disponibles pour l'Europe, d'où aussi le problème des infrastructures et des nouvelles infrastructures gazières.
Et notamment le projet de gazoduc Nord Stream 2, ce projet d'interconnexion gazière entre la Russie et l'Allemagne, qui est censé passer sous la mer Baltique et qui est soutenu par les Européens. Ce projet va-t-il véritablement voir le jour alors que les États-Unis font tout pour l'empêcher, Anna Kreti?
Que les États-Unis s'occupent des tuyaux qui passent en Europe, c'est quand même bizarre. En fait, ils les font indirectement pour nuire à la Russie.
Donc, et pour vendre leur
gaz. On est pris au piège. Effectivement, on est au milieu dans tous les sens, hein, géographique, géopolitique, sur cette guerre. En même temps, j'ai l'impression que Nord Stream 2, même au début, c'est une infrastructure qui est partie du mauvais pied. Parce que donc au moment où on décidait donc les développements à 10 ans des infrastructures gazières, il y avait plusieurs projets concurrents. Et au terme vraiment de la diversification de l'approvisionnement, on aurait dû favoriser plutôt les corridors sud. Donc des pays qui sont du Moyen-Orient et qui sont une alternative à la Russie. Mais ces pays sont aussi très instables.
Vous pensez par exemple à la Turquie qui a annoncé récemment avoir découvert le plus grand gisement de gaz de son histoire en mer Noire. Donc on ne sait pas trop s'il faut croire Erdogan sur ce point, mais en tout cas c'est ce qu'il a déclaré.
Mais en tout cas, géologiquement on sait qu'il y a du gaz. Mais on a préféré doubler la capacité de Nord Stream, donc ça s'appelle 2 parce qu'il y a évidemment le premier qui a été construit dans les années 70. Et il n'est pas seulement soutenu, il s'agit d'un cofinancement de plusieurs investisseurs, dont une grande partie Engie, et aussi donc des Russes qui financent cette énorme infrastructure. Or, la question, c'est est-ce qu'elle est utile ? Face justement à cette diminution qu'on veut du gaz fossile, est-ce que c'est vraiment le cas de s'engager dans ces énormes infrastructures qui sont très coûteuses, qui sont amorties sur les très longs termes, il n'y a pas que les Américains qui l'ont critiqué. Je pense que le président Macron a aussi émis quelques doutes sur l'utilité de cette infrastructure. Bon, le fait est que elle est là, donc il ne faut pas qu'elle représente les premiers coups échoués de la transition énergétique.
Elle n'est pas complètement achevée et on ne sait pas vraiment si elle entrera déjà obsolète véritablement en vigueur en janvier 2021. Il faudra voir ça, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux autour du gaz naturel et c'est aussi ce qui explique les tensions en Méditerranée orientale entre la Grèce, Chypre et la Turquie.
Oui, parce que autour de ces marchés, il y a toujours effectivement une lutte au premier qui arrive, au premier qui assure l'approvisionnement. Moi, je viens de la région, en fait, en Italie, où arrive une autre infrastructure qui est... petite infrastructure par rapport à Nord Stream, mais qui passe par la Grèce et qui rejoint en fait l'Italie du Sud. Il s'agit du gazoduc TAP, qui va être opérationnel en fait à la fin de l'année et qui permet à l'Italie, qui est un pays très fortement dépendant du gaz, de diversifier justement son portefeuille d'importation. Et la Grèce donc veut aller au-delà du marché italien, elle va utiliser le marché italien pour rentrer de façon plus forte sur les marchés européens.
Et par contre, ce qu'on constate du côté de la France, c'est une autre stratégie, puisque la France annonce vouloir sortir du gaz naturel d'ici à 2050. C'est ce que prévoit la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, dont le décret a été publié au mois d'avril. C'est un engagement qui est lié à la spécificité du mix électrique français, Anna Créti ?
Alors, lié profondément, oui, à la spécificité du mix français, notamment à la production d'électricité et à ses caractéristiques.
C'est 6% aujourd'hui le gaz naturel, je crois, de son mix électrique.
Dans les mix électriques, il est très faible parce que, voilà, historiquement, la croissance du marché d'électricité, enfin d'abord de l'usage de l'électricité a été l'électrification massive aussi de l'usage thermique. C'est-à-dire que bon, la plupart des consommateurs finaux utilisent l'électricité pour s'échauffer, ce qui a quand même comprimé la part d'usage de gaz pour les chauffages. Donc effectivement, cet objectif semble atteignable. Toute la question, c'est de voir comment on substitue du gaz fossile dans l'usage électrique. Quelles sont les stratégies qui sont mises en place et avec voilà, quelle trajectoire et quel coût.
Parce qu'effectivement, si le gaz naturel, c'est 6% du mix électrique en France, par contre, c'est 20% du mix énergétique. Et évidemment, la France ne va pas passer au tout électrique. Elle va avoir besoin d'autres sources d'énergie primaire, Anna Créti. Et là, si l'on en croit les écologistes, le gaz pourrait intervenir, mais à condition que ce soit un gaz vert ou un biogaz, qu'il faut préciser qu'il y a des gaz qui sont renouvelables et que les recherches avancent beaucoup sur ce point.
Oui, je pense qu'effectivement, les gaz renouvelables, donc, faudrait trouver un extrait comme celui que vous avez proposé tout à l'heure.
On a besoin d'un éclairage scientifique
du gaz vert. Donc c'est quelque chose qui est effectivement pas très récent du point de vue, je dirais, industriel, mais ça l'est du point de vue du marché. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait partie des réponses du secteur et des acteurs du monde de l'énergie à l'impératif de la décarbonation. Les processus de fabrication de gaz à partir de la biomasse, c'est probablement l'un des plus vieux qu'on connaisse. Par contre, son usage à niveau industriel et les transports, donc toute la mise en place d'une filière biogaz et du transport donc du biogaz dans les infrastructures traditionnelles. En fait, on peut l'acheminer dans les infrastructures déjà existantes. Ça, c'est par contre nouveau. Et on a quelque part attendu aussi de le développer. jusqu'à il y a quelque temps, où des subventions spécifiques ont été introduites pour faire face à un besoin croissant de décarbonation du gaz.
Et c'est cet intérêt pour les biogaz qui explique aussi en partie, on en parlait hors antenne, la proposition de Veolia à Engie de lui racheter 30% des actions de Suez. Mais est-ce qu'on peut imaginer, Anna Créti, qu'on pourra remplacer l'intégralité de notre consommation de gaz naturel fossile en France par du gaz vert? Est-ce que ça ne risque pas de coûter beaucoup plus cher?
Tout ce qui est transition écologique, énergétique, coûte cher. Donc toute la question, c'est d'y arriver au moindre coût. Donc l'ADEME a publié des scénarios. L'Agence de la transition énergétique. Donc elle a publié des études montrant que cela est techniquement possible, qu'il y a des gisements qui permettent effectivement d'atteindre cet objectif de sortie du gaz fossile. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même des incertitudes qui sont encore liées au développement de ces secteurs. Il faut aussi des infrastructures dédiées, donc il faut notamment généraliser les infrastructures qui permettent les procédés de méthanisation de construction aussi chez les mondes agricoles, notamment de ces infrastructures. Il y a donc les mécanismes de subvention, il y a une transformation qui est non négligeable.
Et parmi ces gaz naturels, ces biogaz plus exactement, il y a l'hydrogène dont on va parler demain en compagnie de l'économiste Christian de Pertuis. Un mot de conclusion peut-être, Anna Créti, sur ce gaz naturel fossile qui peut être considéré comme une solution de très court terme. Mais est-ce que le risque, ce n'est pas encore en réalité, il s'installe dans la durée plus qu'on ne l'aimerait?
Je pense qu'il faut toujours veiller à ce qu'il y ait un usage équilibré de toutes les ressources. En plus du gaz en renouvelable et de sa façon d'intervenir avec les mécanismes dont vous parlerez demain, donc du power to gas, il y a quand même des avantages importants. Le gaz est un complément intéressant aux énergies renouvelables, parce qu'il peut être stocké, parce qu'il peut être transformé. Il passe donc à la transformation de l'hydrogène. Et si on veut pousser l'éolien, le solaire, il faut le soutenir aussi avec les gaz. Il faut œuvrer pour la généralisation des gaz verts, également dans les transports. Donc il s'agit des défis futurs. Il ne faut pas relâcher l'attention sur ça.
Merci beaucoup, Anna Créti, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. C'est un sujet passionnant, extrêmement riche. On sera amené, bien évidemment, à en reparler dans les prochains mois. Un grand merci. Merci. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver le journal de l'Écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Présentation demain du plan de relance français, 100 milliards d'euros annoncés. Dans tous les pays, la réponse à la crise se fait par des dépenses massives, ce qui fait dire à certains qu'il s'agit maintenant du moment keynésien.
Et oui, parce que l'accumulation des plans de relance et des dépenses publiques a un parfum de politique d'après-guerre inspiré de John Maynard Keynes. Pour la première fois depuis longtemps, les États du monde s'endettent en explosant à coups de centaines de milliards leur plafond habituel de déficit, interventionnisme généralisé, endettement massif, soutien à la demande, beaucoup d'ingrédients des politiques déployées aujourd'hui se retrouvaient alors. C'est le moment keynésien par excellence, commentait Esther Duflo sur France Inter en mars en référence au consensus keynésien post-Seconde Guerre mondiale. Ainsi, après des années d'austérité, certains se préparent déjà à l'enterrement sans fleurs ni couronne des économistes néoclassiques et de l'orthodoxie budgétaire. Ils ont lu les signes dans l'abandon allemand de la règle du zéro endettement et certaines déclarations politiques, telles Emmanuel Macron, affirmant le 12 mars que les mesures seraient prises quoi qu'il en coûte.
Mais il s'agissait des mesures d'urgence et pas du plan de relance.
Et on ne peut rien vous cacher, Tiffaine, de même que l'ex-président de la BCE, Mario Draghi, qui avait utilisé la même expression « whatever it takes » en 2012, avait eu droit à son qualificatif keynésien. Quant au plan de relance lui-même, avec 100 milliards sur deux ans, il est certes quatre fois plus important qu'en 2008, mais il ne faut pas inverser l'ordre l'ordre des priorités. Il soutiendra d'abord l'offre et l'investissement, comme le dit le président, puis la demande, investir pour transformer, disait le 28 juin Emmanuel Macron. Alors si la rupture budgétaire est évidente, elle n'annonce pas forcément un changement durable de politique.
Un certain pragmatisme, mais pas d'allégeance nouvelle au maître. Il y aurait donc un malentendu quant à l'apport de Keynes ou à la crise que nous vivons ?
Eh bien les deux, mon général. D'abord, les spécialistes Jean-François Ponceau et Jonathan Marie déplorent une interprétation trop limitée ou utilitaire de Keynes comme promoteur d'une dépense publique de dernier recours, disent-ils, qui laisserait entendre un désintérêt pour la stabilité financière, ce qui est un contresens. Ensuite, la crise actuelle n'est pas seulement un choc de demande, mais également d'offre, une crise globale. Le problème n'est pas seulement financier aussi, c'est le manque de confiance. Le débat théorique lui-même, d'ailleurs, n'est pas clos par la crise. Si quelques-uns, parmi les plus éminents comme Krugman, voient le retour de la notion très keynésienne d'effet multiplicateur des dépenses publiques sur l'économie, d'autres lui opposent immédiatement l'effet d'éviction. Autre grande notion de l'économie classique, une perte de confiance due à l'augmentation de la dette et une proportion à épargner plus importante. C'est pourquoi, préviennent Jean-François Ponceau et Jonathan Marie, il faut se méfier du retour soudain et exalté à des penseurs défunts en période de crise, l'économiste providentiel en somme.
La dépense et le sang qui maintient la circulation du flux. J'essaye de rapper, je n'y arrive pas. Enfin, c'est en tout cas ce que dit Keynes à Hayek dans ce célèbre battle de théorie hip-hop. Pourtant, les gouvernements vont devoir trouver d'autres armes que les dépenses publiques.
Et oui, parce que même mise en commun par l'Union européenne, il faudra bien rembourser la dette et surveiller le déficit. On est passé en France de 137% à 150% du PIB en un an. Brice Couturier rappelait d'ailleurs sur cette antenne que durant la guerre, Keynes avait plaidé pour l'instauration d'un impôts supplémentaires. Alors ces hausses d'impôts, la France s'y refuse, mais Londres y pense de plus en plus, sérieusement. Sans cela, ce serait le risque d'une relance à contre-temps, continue Brice Couturier, comme ce fut le cas dans les années 70 pour le Royaume-Uni, qui s'était retrouvé englué dans la stagflation. Enfin, et contrairement à post-2008, eh bien certains s'inquiètent du manque de coordination mondiale des relances, essentielle aussi dans le consensus keynésien. C'est un enjeu stratégique, il faut éviter que, dans la relance, la consommation qui reprendrait ne transforme le marché français exclusivement en une aubaine pour la production étrangère, alors que le but de la relance est de stimuler la production intérieure. D'ailleurs, dans l'économie mondiale à paraître, François Guérolf et Thomas Grièbin vont même plus loin en affirmant que les politiques de relance, bien que souhaitables, ne sont pas sans conséquences sur le solde commercial et la compétitivité industrielle. Alors, plus qu'une résurrection de Keynes, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est bien la persistance de ce qu'ils appellent le dilemme de John Maynard Keynes, relancer la demande au risque de brider les machines.
Merci Xavier Martinet pour la chronique et la musique. On vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'écho. D'entendez-vous l'écho, on se quitte avec le dernier titre de Sufjan Stevens, Video Game. Demain, a-t-on raison de placer tant d'espoir dans l'hydrogène ? Nous poserons la question à l'économiste du climat, Christian de Pertuis. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. I don't wanna be a puppet in a-